Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Vous savez ce que je pense du cours d'éthique et de propagande religieuse. Ah non, c'est vrai, ça s'appelait le cours d'éthique et de culture religieuse. Donc vous savez, si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez ce que j'en pense. Feu le cours d'ECR, on sait qu'il sera remplacé par un cours de culture et d'identité, de citoyenneté en fait, québécoise, dès l'automne de 2022. Ben on apprend dans le journal de ce matin que ça inquiète beaucoup les évêques du Québec. Alors, ils ont émis un communiqué, l'Assemblée des évêques, dans lequel ils disent qu'ils croient qu'un accroissement de la méconnaissance du fait religieux en découlera inévitablement et que cette méconnaissance risque, blablabla, en retour de nourrir des préjugés, blablabla, et d'augmenter la polarisation sociale. Très sincèrement et très poliment, messieurs les évêques, à partir du moment où on a sorti les curés de nos vies, qu'on a sorti les curés de nos écoles, qu'on a établi une séparation très claire entre l'État et la religion. Mais ce que vous pensez de ce qu'on enseigne dans les écoles, on s'en tape. Quand j'ai vu la sortie de l'Assemblée des évêques aujourd'hui, j'ai poussé un trait découragé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Hier soir, à Paris, c'était la grande première du film peut-être le plus attendu de 2021, pas juste en France, mais ici aussi au Québec. C'est la première du film Aline de Valérie Lemercier, largement inspiré de la vie de Céline Dion et de son histoire d'amour avec René Angélil. Et justement, celui qui joue le rôle du personnage qui serait dans la vraie vie René Angélil, ben c'est le comédien québécois Sylvain Marcel. Il était hier donc à cette grande première. Il est au bout de la ligne. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Es-tu un peu lendemain de veille, Sylvain? Avez-vous fait le party à Paris hier soir?
Oui, on s'est couché tard, pas mal. 2 ou 3 heures du matin. Ça a été une soirée. Je suis un peu renversé là. Vraiment, c'est quelque chose de très 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 différent à Paris. Hein. Le star system est pas le même qu'au Québec, tout ça. Fait que c'est très prenant. C'est très. Je suis comme un peu sous de tout cet amour-là qu'on reçoit là présentement. Là.
Qu'est-ce qui est différent? Parce que au Québec, justement, les gens sont comme super prêts. Les gens te reconnaissent dans la rue. Les gens viennent te voir. Ils viennent te parler. Par rapport à justement une grande première à Paris, ça ressemble à quoi?
C'est comme un grand cirque. Hein? C'est quelque chose de très ça dépasse l'entendement. C'est un grand chaos partout. Tout va vite. Il y a des gens qui veulent des autographes, qui me connaissent à peine, puis qui demandent. En tournage, il y a presque 3 ans déjà qu'on a fait le film parce que bon, on a sauté une année là. À cause de la pandémie. Mais en tournage en Espagne, je me rappelle, j'ai signé des autographes, les gens ne savaient même pas qui j'étais. Fait que il y a un rapport vraiment différent. Mais ils savaient que je tournais dans le film, donc ils se disaient, ça doit être une vedette, ils vont prendre un autographe. Fait que c'est un rapport très différent avec qu'au Québec. Au Québec, on est plus libre de se déplacer ou de ici, mais un peu moins quand même.
Alors, écoute, comment s'est passé? Quelle était la réaction? Parce que, je dis que c'est un film qui est très attendu à cause de son sujet, doublement attendu parce que, justement, ça devait sortir il y a un an à cause de la pandémie, ça a été retardé, donc les attentes étaient énormes. Comment le public a réagi hier soir au film?
Ah, c'était fabuleux. Les gens dans ce film-là, on rit et on pleure. Moi, ça fait 4 fois que je le vois. J'ai jamais fait ça. Là. Les films que j'ai faits, je vais le voir 1 fois, 2 fois. Après ça, quand il y a une projection, j'irai pas, tu sais, je vais être en dehors de la salle parce que je l'ai assez vu, tu sais, puis à la fin, je reviens pour des applaudissements, ces choses-là. Mais là, moi, ça fait quatre fois que je le vois. Ce soir, on joue à Créteil, en banlieue de Paris. Et je m'en vais le voir encore. C'est comme c'est du bonbon. C'est quelque chose de qu'on aime ou qu'on n'aime pas Céline. Je pense qu'on va adorer le film. C'est vraiment un film, ce qu'on appelle un feel-good movie, quelque chose qui fait du bien, qui ramollit le cœur, en fait.
Ça ramollit le cœur. Et c'est drôle, t'as vu le lapsus que t'as dit, on joue ce soir à Créteil, comme si c'était une représentation de théâtre. Non, mais je trouve ça très touchant, Sylvain. Je dis pas ça pour te reprendre, au contraire. Je trouve que ce mot-là que t'as choisi, c'est comme si, en effet, c'était une représentation, parce qu'en fait, tu t'en vas te présenté devant les gens. Valérie Lemercier, la réalisatrice, qui est en plus, qui joue le rôle de Céline Aline, qui est en plus, évidemment, celle qui a écrit le scénario, est vraiment à tous les chapeaux. Elle ne tarit pas d'éloges sur toi, sur les autres comédiens québécois. Qu'est-ce qui s'est passé, cette espèce de chimie-là ou de particularité qu'il y a eu sur le plateau de ce tournage-là?
Ben, ça l'a beaucoup surpris, notre implication, en fait, face au jeu d'acteurs, parce qu'on est énormément de Québécois, hein, dans ce film-là. Il y a, je dirais qu'il y a au moins presque 98% des acteurs sont des actrices sont Québécois, là, dans le film. Et, nous, on n'est pas sur notre cellulaire, là, en deux prises où, on est impliqués, on est plus impliqué émotivement dans le film, ce qui l'a beaucoup surpris, ce qui l'a charmé, en fait, aussi. En fait, elle dit que c'est sa deuxième famille. Donc, elle est très, très, très heureuse d'avoir travaillé avec nous.
Qu'est-ce que tu penses de son accent québécois à Valérie Lemercier quand elle joue le rôle de Aline alias Céline Dion?
Mais c'est sûr que pour les puristes, ils seront pas contents. Mais moi je dirais là qu'après, l'accent est pas parfait. C'est évident, là, c'est pas parfait. Mais après 5 minutes, c'est une actrice extraordinaire. Après 5 minutes, on pardonne et on se met à embarquer dans le film et on dit bon ben Aline ne parle comme ça. C'est le personnage d'Aline qui parle de cette façon-là. Fait que c'est pas quelque chose qui dérange vraiment. En tout cas pas moi. T'sais. Fait que elle est extraordinaire, elle nous fait rire, la seconde d'après elle nous fait pleurer. C'est vraiment, moi j'ai rarement vu ça chez une actrice et un acteur.
Toi, quand on t'a approché pour jouer ce rôle-là, est-ce que tu avais une crainte? Est-ce que tu te disais, bon, le public québécois va m'attendre avec une brique puis un fanal, parce que Monsieur Angélil, c'est un personnage qui a été tellement aimé, tellement important. Est-ce que tu avais une crainte par rapport à l'ampleur du personnage et l'ampleur de l'attachement qu'on a pour lui au Québec?
Bien, c'est sûr que moi, c'est vrai aussi en même temps, au Québec, c'était... on a beaucoup fait de parodies, hein, de ces deux grands personnages-là. On les a beaucoup parodiés. Donc, moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, je comprenais pas. Je demandais à Valérie, je dis, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Parce que je voyais pas l'ironie, je voyais pas le... Et elle disait, moi, je veux faire une histoire d'amour. Puis elle dit, c'est pas René Angélil.
Elle n'était pas dans la parodie du tout.
Non, et je prends pas la voix de René Angélil non plus. C'est sûr que je lui ressemble, là, mais c'est pas une imitation que je fais. J'interprète Guy Claude, qui était un personnage fictif, si on peut dire, mais fortement basé sur la vie de René Angélil, évidemment. Toutes les scènes qu'il y a dans le film, on les connaît. On a été informés de ces scènes-là. On les connaît, mais on les découvre comme si c'était totalement nouveau. Et elle a fait quelque chose de formidable. Il y a Robert Charlebois qui a dit qu'il a vu le film, je pense que ça fait 4 fois qu'il le voit, qui a dit il y a 3 personnes qui ont vraiment aimé Céline Dion. Il dit il y a sa mère, évidemment. Il y a René Angélil et il y a Valérie Lemercier.
Que c'est bien dit! C'est bien dit, c'est très touchant. Écoute, Sylvain, on te connaît évidemment tous comme comédien. On va écouter mon collègue Jean-François Paquet a préparé un petit montage à partir de la bande-annonce pour mettre en valeur justement différents moments où on te voit, où on voit ton travail de comédien. I'm
alive. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Ça va mettre tout le monde à terre.
Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de Piano.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre.
Je m'inventerai reine pour que tu me tiennes. Go. Je me ferai louer pour que le feu reprenne.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut, pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Une.
Qu'est-ce que ça te fait de te faire traiter de vieux pruneau? Je trouve ça très drôle.
Oui, c'est un moment assez fort. On a eu une grosse réaction hier dans le film. Les Français sont charmés par l'accent, évidemment. Là, ouais. Ils aiment beaucoup. Ils comprennent à peu près tout. On a vraiment fait... c'est un Québécois, disons, soutenu qu'on fait pour que les Français puissent suivre, tu sais, puis ça marche au bout, là.
Ouais, c'est pas sous-titré, j'espère, parce qu'il y a des films de Xavier Dolan non. ou d'autres qui ont été sous-titrés. Écoute, Sylvain, je sais que t'es pressé par le temps, je veux quand même te parler un petit peu. Le film, donc, ça, tu dis, ça fait quatre fois que tu le vois, t'avais accompagné le film aussi à Cannes. Quand t'étais ouais. petit cul au Québec, puis que tu te voyais, je sais pas, faire carrière, est-ce que tu t'imaginais, un jour, je vais aller à Cannes, un jour, je vais être dans un film qui va être présenté en grande première à Paris, les gens vont m'arrêter, me demander des autographes. Est-ce que c'est comme ça que tu la voyais, ta vie?
c'est sûr que coucher dans son lit, soit des fois, là, je pensais à ce genre de choses-là. Pis, mais moi, ce que je voulais, en fait, là, en tant qu'acteur, là, à l'époque, il y a longtemps, c'était juste de faire deux ou peut-être trois shows par année de théâtre. Puis j'aurais été comblé. Là, les attentes sont dépassées, mais c'est... c'est au-delà de mes rêves les plus fous, là, ce qui se passe présentement. C'est vraiment extraordinaire. Je suis très, 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 très plein de reconnaissance.
Est-ce que, quand tu regardes ça, t'as envie, des fois, de faire la fameuse phrase de Family Prix? Ah! En disant, voilà, toute ma carrière s'est bâtie, puis j'en ai fait des publicités, puis j'en ai fait des choses, puis là, finalement, c'est comme le haut point de ma carrière.
Ouais, vraiment, je suis rempli de gratitude. C'est aujourd'hui, j'essaie de profiter de tous ces moments-là, puis je me dis que au cas où il n'y ait pas une vie après la mort, là, faut vraiment que j'en profite là à l'instant.
Et juste une dernière question, parce que vraiment, je sais que t'es pressé par le temps. Encore une fois, quel genre de porte ça t'ouvre? Est-ce que depuis que il y a eu donc le visionnement à Cannes, depuis que hier soir, est-ce que tu sens que il y a des demandes, qu'il y a des gens en France qui aimeraient que tu fasses du cinéma ou de la télé là-bas? Est-ce que ça débouche sur quelque chose?
Ben oui, c'est ça. Hier, il y a déjà des choses là, qui ont commencé à se parler. Donc, il y a un agent là, qui devrait travailler peut-être pour moi ici en France. Et il y a des projets qui commencent à prendre forme. Tout ça. Il y a Daniel Fichaud qui a déjà un film avec Franck Dubosc là, qui va tourner bientôt. C'est vraiment, c'est ça. C'est comme une récompense d'une vie de travail qui est en train de se concrétiser là présentement. J'attends, je regarde, je vais voir les offres, qu'est-ce qui peut arriver. Puis le rêve de tout comédien, c'est de jouer devant le plus de gens possible. Puis c'est un peu ça qui m'arrive présentement. Je suis rempli de gratitude. Voilà.
Ben écoute, on est super fiers de toi, super fiers aussi de tous les autres comédiens. Daniel, dont tu parlais, évidemment, qui joue le rôle de ouais. Thérèse Dion, enfin l'équivalent de Thérèse Dion, évidemment, dans ce film inspiré de la vie de Céline Dion. Le film va prendre l'affiche fin novembre au Québec. On a très hâte de voir ça. Sylvain, merci beaucoup d'avoir pris le temps parmi tous tes fans français. Alors du coup, là, va falloir que t'ailles retourner, voire donner d'autres entrevues, des interviews, là, du coup. Donc, merci Sylvain. Là, c'était vraiment chouette là.
Merci. Salut.
Ma très mauvaise imitation. Merci Sylvain. Sylvain Marcel donc qui se confiait sur son rôle dans le film Aline de Valérie Lemercier, largement inspiré de la vie de Céline Dion.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
À la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin, un dossier vraiment fascinant sur les employés du service public qui sont passés au privé parce qu'ils en pouvaient juste... En fait, elles en pouvaient juste plus de la pression au service public. C'est ce dont veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Je regardais la une du journal et je me disais... Il y a quelque chose de magnifique parce que si on regarde ces femmes-là, parce que c'est vraiment dans des milieux de femmes que ça arrive beaucoup, c'est ce qu'on comprend, elles ont un grand sourire parce qu'elles ont changé de carrière, parce qu'elles ont choisi leur qualité de vie. Et en même temps, on se dit que le système a perdu aussi ces femmes-là. Alors, tu sais, c'est comme beau et en même temps, c'est épouvantable. C'est un choix qu'elles ont fait, puis on peut comprendre pourquoi elles l'ont fait, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une fêlure dans notre système. J'ai l'impression que la pandémie, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour plusieurs. Tu sais, le système était, on était déjà dans les limites du possible. Il y avait déjà beaucoup d'épuisement et tout ça. Et là, tout à coup, cette pandémie qui arrive et qui ne finit plus de finir, ben, il y en a qui ont dit, puis c'est autant dans les hôpitaux, on voit aussi que c'est aussi dans les écoles où il manque un paquet de monde. Et je pense que c'est là que, au lieu de craquer, parce qu'on comprend aussi en lisant des histoires de ces femmes-là, et moi, j'en ai entendu tellement d'histoires de femmes, entre autres, qui ont changé de carrière, où quand tu te lèves le matin, puis tu pleures, puis tu reviens de travailler, puis tu es épuisée, et ça que tu as le blues. Tu sais, quand tu as le blues du dimanche soir parce que tu ne veux pas commencer ta semaine, là, ça, c'est des signaux importants. Et ce qu'on comprend, c'est que ces femmes-là les ont écoutées. Tu sais, quand on... Il y en a qui ont accepté de réduire de salaire, de perdre leurs conditions de travail. Ben, voilà. Elles se sont choisies.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles se sont écoutées et on pourrait penser que les gens quittent le public pour aller au privé pour des meilleurs salaires et que ce soit ça l'argument. Mais ce qu'on voit dans les témoignages, c'est des gens qui acceptent justement, c'est le contraire, qui laissent des emplois quand même bien rémunérés pour des emplois moins bien rémunérés. Ils lâchent une sécurité d'emploi, des vacances, de l'assurance maladie et tout ça pour quelque chose de beaucoup plus précaire. C'est juste parce que la pression est trop forte, ils n'en peuvent plus. Et moi, il y a un témoignage qui m'a fait capoter. C'est quelqu'un qui a quitté et qui est devenue travailleuse du sexe. Ça, je me dis, OK, c'est vraiment, tu fallait vraiment que tu sois écœurée de travailler au public pour être rendue. Il n'y a aucun mal à être travailleuse du sexe. Là, je porte pas de jugement là-dessus. Mais je veux dire, j'allais dire un grand écart, mais quel, il faut vraiment que tu sois à bout de tout, là.
Ouais, ben absolument. C'est là que tu dis, mais ça fait longtemps que ça perdure, puis à un moment donné, tu dis que c'est assez. Parce que, tu sais, dans la vie, il faut qu'on ait une reconnaissance. Il faut qu'on ait de l'espoir pour demain. Et quand tu as l'impression que tu n'arriveras jamais au bout de rien, parce que c'est un peu ça. Tu sais, quand les enseignants disent, écoutez, là, il nous manque de gens spécialisés, il manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues, de psychologues dans nos écoles. Ce qui fait, tu sais, il y en a une là-dedans, elle dit, écoute, j'avais des enfants qui étaient surdoués avec des enfants autistes dans la même classe. À un moment donné, c'est difficile de répondre aux besoins de chacun. C'est difficile. Alors, tu rentres chez vous, puis tu es tout le temps comme... tu as l'impression de ne pas avoir fait la bonne affaire. Ça peut arriver une journée, ça peut arriver une semaine, mais ça ne peut pas être le quotidien de personne parce qu'on a des émotions, c'est de ça qu'on est fait. Et de, tu sais, d'avoir étudié dans un milieu que tu as envie d'endosser chaque jour de ta vie, en tout cas pour ta période de travail, et qu'à un moment donné, ça te rend malade, ça t'écœure, bien, c'est grave et il faut s'écouter. Mais sauf que quand c'est généralisé comme ça, parce que là, on voit ça un peu popper de partout, là, des gens qui quittent justement le système public. Tu sais, il y a une éducatrice en garderie qui cette fille-là, je l'ai connue à un moment donné, puis c'est une super chouette fille, celle qui est dans le journal, puis elle dit, ben là, tu sais, j'en pouvais plus, puis pourtant, elle s'ennuie des enfants. C'est une fille qui voulait travailler avec des enfants, mais à un moment donné, c'est que t'es plus toi-même, tu deviens un peu ton ombrage, et on peut pas, il faut qu'on se choisisse, puis moi, le mot qualité de vie revient souvent, et je pense que les employeurs aussi, là, on parle du service public, mais il reste que dans l'ensemble des employeurs doivent aussi mettre ça dans leurs critères, la qualité de vie. Quand ça va pas, là, ben, tu peux plus donner comme autant. Et on voit les dépressions, les burn-out qui augmentent, mais il y a beaucoup le travail qui fait partie de tout ça. La surcharge.
La surcharge de travail, puis à un moment donné, il va falloir se questionner aussi comme société, comment ça se fait que, alors que justement, quand tu travailles pour les services publics, normalement, tu devrais avoir des meilleures conditions de travail, ça devrait être comme plus une forme de cocon, comment se fait-il qu'il y ait autant de colère, autant de burn-out, autant de difficultés, autant de pression, le système pète de partout, on l'a vu au cours des dernières semaines, à quel point le supposé modèle québécois est plein de failles et plein de fissures. Écoute, comment se fait-il alors que justement, quand on regarde le poste budgétaire du gouvernement québécois, les deux plus gros postes budgétaires, c'est la santé et l'éducation. Comment se fait-il que chaque fois qu'on paye nos impôts, on se dit il y a la plus grande partie de ce que je paye en impôts, ça va aller dans le système de santé, dans le système scolaire, puis que on se retrouve qu'on n'a pas la qualité de services auxquels on aurait droit. Puis, faut pas pointer du doigt nécessairement les gens qui y travaillent parce qu'ils font de leur mieux. Ils disent tous, on donne notre 110%, mais au bout du compte, comme citoyen, on n'a pas les services auxquels on devrait s'attendre.
Ah non, absolument pas. Puis, tu sais, on voit enseignantes, infirmières auxiliaires, directrices d'école, éducatrices en garderie et Sophie, on n'a pas le choix de faire le constat que c'est des milieux qui sont représentés majoritairement par des femmes aussi. Et ça, je pense que ça dit beaucoup de choses. Est-ce que les femmes, on nous en donne trop? Est-ce qu'on en prend trop? Est-ce qu'on attend trop? Je me pose toutes ces questions.
Trois bonnes questions, Marie-Claude. Trois bonnes questions.
Tu comprends, je veux absolument rien juger, mais il faut faire des constats de ça. On peut pas juste dire c'est épouvantable. Il y a quelque chose, il y a une trame de fond en dessous de ça qui est très grande. Quand on parle de la charge mentale, est-ce que l'accumulation de la charge mentale, plus l'accumulation de tout ce qui déborde dans le milieu de travail, qu'on demande aux femmes de faire, tu sais, les heures supplémentaires qu'on parle tant dans le milieu hospitalier, c'est épouvantable, ça. Tu sais, je veux dire, tu as une famille, tu as des responsabilités et tu apprends qu'il faut que tu fasses un chiffre de 8 heures de plus. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, là, j'ai déjà été hospitalisée dans ma vie, puis j'ai vu ça, là, tu sais, l'infirmière a dit « bye-bye, écoute, je pense pas qu'on va se revoir, je finis dans une heure. » Et finalement, deux heures plus tard, elle revient, tu sais, t'es encore là, « ben oui, finalement, il y a quelqu'un qui est pas rentré, donc je vais finir à minuit. » Il y a personne qui travaille comme ça, tu sais, qui pourrait rester zen et équilibré à travers tout ça, parce que il y a des gens qui t'attendent, tu peux pas répondre à leurs besoins, donc t'as jamais l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Puis à un moment donné, ça craque. Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est que tu sais, il y a aussi des conflits des fois dans le milieu de travail où tu peux pas t'épanouir dans ton milieu de travail. Et ça aussi, c'est important d'en parler. Il y a justement une de ces femmes-là qui est interviewée qui dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment, je trouvais, interpellée, qui dit « plus j'en donne dans son milieu de travail et plus je vois le résultat ».
Alors qu'elle n'avait pas ça au public. Elle voit ça au privé alors qu'elle voyait pas ça au public, et c'est ça, c'est une question de valorisation. Tu sais, des fois on a tendance à un peu caricaturer, ah, tu travailles pour le public, c'est des ronds de cuir, tu sais, des pousseux de crayons puis tout ça, mais je veux dire, dans tous les milieux, les gens devraient pouvoir s'épanouir au travail, que ce soit au public ou que ce soit au privé, là.
Et le travail, là, c'est pas la vie. Et ça aussi, on comprend aussi que ces femmes-là, c'était tellement exigeant tout ce qu'on leur demandait qu'à un moment donné, c'est pas ta vie, ton travail. Le travail fait partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, je pense que les femmes se manifestent présentement. Est-ce qu'il y aura des changements? Je crois que oui, parce que il peut pas manquer autant de monde sans qu'il n'y ait pas de changement. Et en même temps, Sophie, je me questionne aussi sur les jeunes qui, présentement, sont en train de faire leur choix de carrière. Il y en a beaucoup. Tu vois, moi, ma fille, la plus jeune, va rentrer à l'université. Donc, elle se demande ce qu'elle va faire. Bon, elle ne sait pas. Là, elle est vraiment c'est vraiment en ébullition, mais il y en a plusieurs là, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on a envie d'occuper ces postes-là, finalement, ces professions-là, présentement? Est-ce que quelqu'un peut dire « j'ai envie d'être éducatrice en garderie? » Est-ce que j'ai envie d'être infirmière auxiliaire? Est-ce que j'ai envie d'être infirmière? Est-ce que j'ai envie d'être enseignante? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de... Est-ce que toi, tu aurais le goût présentement, quand tu regardes tout ça, de dire « ah, moi, j'endosse ça pleinement? »
Je te laisse même pas finir ta phrase. La réponse, c'est déjà « non, ça donne pas le goût, mais pas le goût du tout. » Écoute, Marie-Claude, donc j'invite tout le monde à aller lire ce dossier vraiment drôlement intéressant dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur ces femmes majoritairement qui ont changé de carrière, qui ont quitté le public pour le privé. Écoute, un autre dossier intéressant, c'est cette notion de fatigue pandémique. Explique-nous, c'est quoi la fatigue pandémique?
Ben, écoute, c'est la fatigue pandémique, en fait, c'est en novembre 2020 que l'Organisation mondiale de la santé a commencé à parler de fatigue pandémique parce que on sentait ça à cause, évidemment, du virus. Et ce que ça dit, c'est que la surmédiatisation et le besoin constant de fournir des efforts fait en sorte qu'il y a un épuisement psychologique et physique aussi qui arrive. Parce que on comprend qu'on est toujours en état d'alerte, même ça s'est réduit avec le temps, mais c'est encore comme ça parce que l'Université de Sherbrooke vient de réaliser une étude, écoute, ça s'est terminé en octobre l'étude, c'est récent, auprès de 10 368 citoyens. Et ça démontre que 61% des travailleurs en présentiel souffrent de fatigue pandémique, 60% des étudiants, 48% des gens en télétravail. Et moi, une donnée vraiment qui je trouve qui est importante, 64% des gens âgés entre 18 et 34 ans disent souffrir de fatigue pandémique. Donc, c'est énorme, tu sais, c'est parce que, regarde, il y a une réduction de la vie sociale. Tu sais, je pense aux 18-34 ans où tu as l'impression que, tu sais, ta vie commence, là, puis que, mais en même temps, pour tout le monde, il y a ça, la réduction de la vie sociale. Le manque de spontanéité, le manque de perspective, la privation de liberté, ça fait partie de tout ça. Tu sais, c'est qu'on commence à être usé. Et moi, je pense aussi, si je vois l'Ontario qui avance avec le droit de se déconnecter, et je pense que le Québec devrait aussi, tu sais, la France le fait quand même depuis quelques années, et je pense que le Québec devrait commencer à penser à emboîter le pas, parce que cette hyper-connexion où on a besoin du temps pour nous, on a besoin, tu sais, ça peut être de voir des amis, ça peut être d'aller marcher. Moi, j'étais allée voir Rita Baga la semaine passée, Sophie, là. Puis...
la drag queen,
oui,
Rita Baga, ben oui.
J'étais allée la voir en spectacle.
Ça t'a fait du bien?
Te dire, j'étais avec ma fille, tu sais, on est allé souper au restaurant avant, on est sorti. Il y avait comme un semblant, oui, on avait un masque, là, tu sais, tout ça, mais il y avait un semblant de retour à la normale, de rire, tu sais, de rire légèrement. Elle est drôle, écoute, c'est extraordinaire, là, tu sais, il y a une légèreté.
Quand elle imite Céline, là, oui.
Oui, c'est extraordinaire, tu sais, je veux dire, ça nous fait oublier ça. Puis je me suis dit, ça, là, il faut essayer d'en rajouter des choses simples comme ça. Aller voir un spectacle, aller, tu sais, ça peut être aller marcher, ça peut prendre le temps de lire un livre, ça peut... Mais qu'est-ce qui nous fait du bien à nous? Il faut commencer à se poser des questions, parce que moi, quand je regarde ces chiffres-là, je me dis, c'est énorme, parce que ce que ça fait des gens qui sont fatigués, des gens qui sont plus anxieux, des gens qui sont dans un état de stress, et on sait que si ça perdure dans le temps, ben ça peut se détériorer, ça peut nous amener dans des états où ce sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Mais ce qui est important, c'est quand quelqu'un est fatigué présentement, c'est de savoir c'est quoi la source et de l'écouter. Parce qu'on parle de moins en moins à des gens aussi. T'sais,
dans notre vie de tous les jours, c'est hallucinant. Là, si on compare maintenant versus pré-pandémie, la quantité d'interactions humaines, et a vraiment diminué de façon énorme. Et ces interactions humaines-là, je ne sais pas si tu... Moi, je trouve, par exemple, l'agressivité sur la route, les cas de rage au volant. Je veux dire, suffit que t'aies un feu vert, puis ça suffit que t'attendes 3 secondes au feu vert avant de repartir. T'as le gars en arrière, le gars en avant qui te klaxonne. Sur les médias sociaux, on n'en parle même pas. Écoute, je t'en ai parlé récemment. Vendredi dernier, j'étais en débat avec Denis, à l'émission de Denis Lévesque à propos des anti-vaccins. Écoute, depuis vendredi soir, sur mon adresse au Journal de Montréal, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les médias sociaux, l'agressivité des gens, ils sont pas d'accord avec moi. C'est correct, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les vaccins, mais écoute, je me fais traiter de toutes sortes de noms que je serais même gênée de te dire en onde. Je serais même gênée de répéter ça, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des enfants qui écoutent ça. Je veux dire, tout le monde est comme à bout, mais calmez-vous tout le monde, là.
Ben moi, je dis...
tisane, là.
La semaine dernière, il y a 2 semaines, en tout cas, j'étais allée faire mon marché et j'ai coupé un homme avec mon panier parce que j'étais dans l'une. J'ai avancé puis il avançait en même temps, mais c'est comme moi qui a passé devant. Écoute, il a pogné les nerfs. En l'épicerie,
ouais.
Je me suis fait engueuler.
Coudon! La rage au volant avec le panier d'épicerie, toi!
Ben oui, là, je me dis, mais voyons, là, qu'est-ce que j'ai dû faire ça avant, là? Moi, tu sais, je suis comme dans mes légumes, les fruits et légumes, je suis dans l'une. Et là, ça m'a ramené. Je suis wow, mon Dieu, j'étais là vraiment désolée. Puis je savais comme plus quoi dire pour... C'était absolument pas volontaire, comme si que j'avais voulu y couper le chemin, tu sais, je veux dire, à l'épicerie. On pense pas à ça. Mais tu sais, on a moins cette capacité-là d'émerveillement. Puis je trouve qu'on a moins de choses positives à se raconter. Tu sais, on voyage plus, on a moins de tu sais... À toutes les fois, écoute, même moi, l'autre fois, j'étais allée dans un souper, puis je me disais, là, on est-tu 10 ou 11? Il me semble qu'on a le droit d'être 10. OK, on est 10. Mais je calculais le monde autour de la table. Là,
au lieu
là,
de profiter
là,
de ta soirée, ben oui.
Ben oui, puis là, dès que tu te lèves, évidemment, tu remets ta place. Mais tu sais, ça, là, c'est correct qu'on le fasse. C'est... Mais à la longue, ça devient use. Épuisant et ça enlève la liberté, ça enlève la spontanéité. Il faut qu'on en soit conscient. Et je veux juste revenir sur la loi, le droit à la déconnexion. Moi, j'en parle souvent parce que depuis qu'on a fait ça en France, je comprends pas qu'on n'a pas suivi le pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail présentement, où ils font les deux, là, tu sais, présentiel et télétravail. Et c'est difficile de s'arrêter de travailler quand tu es en télétravail parce que tu as toujours accès à ton ordinateur, tu as toujours accès à tes choses. Et en France, après une certaine heure, il y a même des entreprises où les serveurs se ferment. Donc, tu ne peux plus travailler. Et si on t'envoie un courriel après telle heure, tu sais, il y a des règles de régie interne, mais tu n'es pas obligé de répondre. Personne ne peut t'obliger à donner une réponse. Même on te demande de ne pas répondre pour avoir, parce que c'est pour rester équilibré à un moment donné. Et là, avec, tu sais, ça s'est fait avant la pandémie en France. Mais je trouve que là, avec ce qu'on vit, parce que le télétravail, c'est vraiment accéléré. Le télétravail est là pour rester dans plusieurs domaines où il y aura vraiment une cohabitation, je pense, entre le bureau et la maison. Ben, il faudra commencer à y penser. Parce que là, nos voisins ontariens emboîtent le pas. Et je pense que ça, en tout cas, ça pourrait calmer les gens. Puis, tu sais-tu quoi? Peut-être que, en tout cas, peut-être parce que je parle à plus de femmes, mais moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi que je chicane, puis j'en fais même partie. Moi aussi, je suis un peu comme ça. On travaille trop. Depuis qu'on est en télétravail, on travaille trop. C'est le soir, c'est OK, le matin, bien, j'ai pris 1 heure le matin, je vais me rattraper à soir. Finalement, le soir, ils finissent plus. On travaille trop. Alors, il va falloir que ce soit normé aussi pour régler ça. Ce phénomène d'avoir l'impression de jamais en faire assez, d'avoir une culpabilité dès qu'on quitte notre poste de travail, ça, c'est très, très lourd sur une base quotidienne.
Oui, puis je reviens à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait des femmes qui ont quitté le public pour aller au privé. T'as dit faut faire un certain nombre de constats, se poser un certain nombre de questions. Puis t'as mis en parallèle 2 questions. T'as dit est-ce qu'on demande aux femmes d'en faire trop? Est-ce que les femmes d'elles-mêmes en font trop? Je trouve ça important que tu mettes ces 2 questions-là en parallèle l'une avec l'autre parce que il y a la pression que la job nous met sur les épaules et la pression qu'on se met nous-mêmes sur les épaules. Alors c'est important de se poser ces questions-là. Mais je trouve ça important quand tu demandes, quand tu dis que tu chicanes tes amis de filles ou tes collègues, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de se parler aussi entre filles, puis de se dire, tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir cette charge mentale là. Tu peux aussi en délester. Et le mot clé ici, c'est toujours être délégué.
Ah oui, et c'est ça, et ça c'est important, parce que si tu délègues pas, ça se peut que ton employeur engage pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? Parce que si tout le monde en délègue un peu, à un moment donné, tu crées un poste de travail aussi là, dans la gestion de, tu sais, pour un gestionnaire, c'est important de savoir, alors que de tout prendre. Parce que, tu sais, pendant les mois où on était confinés, il y a des entreprises qu'il y a des gens qui n'ont pas renouvelé. Tu sais, les contrats se terminaient ou encore, ils ont dû faire des mises à pied. Il y en a d'autres qui ont pris ça sur leurs épaules. Et je pense que c'est important de leur rappeler que c'était une mesure temporaire et non une mesure permanente. Oui, parce que important. Moi, tu vois, j'ai des gens autour de moi où c'est devenu permanent, cette surcharge de travail-là. Parce que, tu sais, on était un bout, OK, on va s'entraider, ça va durer quelques semaines, quelques mois. Là, finalement, c'est pratiquement quelques années. Ça fait que là, le temporaire ne fonctionne plus. Et moi, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vivent ça. Mais moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est des femmes. Et je pense qu'il faut mettre ses culottes. Là, je ne sais pas si on a encore le droit de dire cette expression-là.
Oh, oui, on a le droit. Ben,
on
oui.
peut le dire, ça. Mais là, c'est le temps de mettre ses culottes et arrêter d'en prendre sur soi. Parce qu'on est le pilier de soi-même. Puis quand ça craque, ben on va. Des fois, il faut quitter notre emploi pour un certain temps. Et c'est encore pire, ça, que d'être capable de déléguer au bon moment pour se préserver. Et c'est comme ça qu'il faut penser.
On va se quitter là-dessus, Marie-Claude, parce que tu vois, quand on dit en donner beaucoup puis être généreux, ben on devait faire 15 minutes, mais on est rendu à 18, fait que tu vois.
Oh, parfait.
Ben non, mais au contraire. Ben moi j'adore ça, mais t'en donnes plus que le client en demande.
Alors voilà, c'est ça. Je vais te déléguer la suite, Sophie. Non, mais c'est un sujet qui est important.
Oui.
Je pense qu'il faudra en parler de plus en plus. Il faudra faire des constats. Je pense qu'on peut pas vivre ça sans qu'il y ait des constats. Il y a quelque chose qui marche pas. Alors, faut se regarder aussi. Faut regarder le système, mais faut se regarder aussi en tant que personne. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je nomme les choses? Et si oui, ben le système en faire de quoi? Et sinon, c'est peut-être le temps de nommer les choses.
Absolument.
Alors, merci,
toujours important
ma belle Sophie,
de mettre des mots.
C'est un plaisir.
Ben merci, un plaisir partagé et on se retrouve demain.
À demain, bye bye.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous avez sûrement entendu parler au cours des derniers jours du projet de loi 2 du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, une refonte, en fait, une réforme du droit de la famille, mais qui a aussi beaucoup d'implications pour les personnes transgenres. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section « Faites la différence », où on vous invite à vous prononcer sur différents enjeux, il y a une lettre d'Alexandre Bédard, une lettre qui s'intitule « Qui suis-je pour décider du sexe de mon enfant à naître ?» Donc, une référence directe au projet de loi 2. Alexandre Bédard, qui est conseiller aux enjeux trans chez Alliance Arc-en-Ciel de Québec, est au bout de la ligne. Monsieur Bédard, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien. Écoutez, j'ai lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt. Vous vous adressez directement au ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Monsieur Jolin Barrette?
En fait, je pense que je veux juste simplement qu'ils comprennent peut-être l'enjeu que ça peut avoir de faire un projet de loi de la sorte, mais sur plusieurs aspects de la communauté trans, que ce soit les personnes intersexes, que ce soit les personnes trans comme moi-même. En fait, ça touche plus qu'un aspect seulement. Il y a plusieurs personnes trans qui ne désirent pas avoir une opération génitale et qui, avec ce projet de loi-là, auraient l'obligation, dans le fond, d'indiquer le sexe et le genre sur leur papier officiel. Donc, ce qui, en quelque sorte, fait un coming out à chaque personne à qui on présente nos pièces d'identité.
D'accord. Donc, ce que vous contestez, on va commencer par le début. Vous m'avez parlé d'abord de personnes intersexes. Alors, juste, si vous le permettez, hein, j'espère que ça vous dérange pas. Pour beaucoup de gens, le mot intersexe, on sait pas ce que... Moi, je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelait avant, et je sais que c'est un terme que, dans la communauté, vous n'aimez pas, mais c'est ce qu'on appelait avant quelqu'un d'hermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui naît avec soit deux des caractéristiques physiques des deux sexes ou des, c'est pas clair. Hein? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ouais. ça?
Ben en fait, c'est une personne intersexe dans le fond, c'est quelqu'un qui va avoir en fait là, dans la société, on va dire au niveau médical, là, quand on détermine le sexe d'une personne, ça va être soit par les organes génitaux. Physique, donc ce qu'on voit, ou interne. Donc, une personne intersexe pourrait ne pas le savoir, pourrait avoir un ovaire, mettons, puis une prostate, avoir une apparence masculine. Donc, c'est quelque chose qui est déterminé au niveau physique. Et un enfant, exemple, qui naît avec un clitoris, un enfant fille à la naissance, là, biologiquement, qu'on dirait que c'est une fille, qui naît avec un clitoris qui est plus gros que la normale, ben on, à ce moment-là, on va dire, bon, ben, c'est une personne intersexe, alors choisissez, est-ce que vous voulez que ce soit un enfant qui soit vu fille au terme de la loi ou garçon, mais là, à ce moment-là, ça amène une opération. Donc, dans le temps, souvent, on faisait des chirurgies, on amenait, bon... un enfant qui naît avec un pénis plus petit qu'un normal, ben, on pouvait à ce moment-là peut-être l'opérer jeune. Puis, tu sais, dans mon entourage, j'en ai une personne qui le savait même pas. Ses parents ont fait faire l'opération et il l'a su beaucoup plus tard quand cette personne-là s'est rendu compte que, dans le fond, son identité de genre ne correspondait pas au sexe qu'on lui avait assigné à la naissance, qu'on avait choisi pour cette personne-là.
D'accord. Vous dites qu'il y a dans ce projet de loi l'article 24 qui obligerait les parents le plus tôt possible à prendre une décision binaire, fille ou garçon. Et vous dites dans votre lettre que ce sont qu'on obligerait donc les gens à se conformer aux normes binaires instaurées par la société. Est-ce qu'on peut discuter quelques minutes, vous et moi, sur cette notion que le côté binaire, c'est quelque chose qui est instauré par la société? Vous pensez pas que c'est plutôt biologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité biologique, qu'il y a une particularité physique féminine et une particularité physique masculine? Est-ce que vous niez ça?
Non, mais c'est sûr qu'au niveau biologique, tu sais, comme moi, je suis née fille, ok. Puis ça, je le démentirai pas là. Physiquement, j'avais un corps de femme.
D'accord.
Par contre, à l'âge de 3 ans et demi, puis tu sais, je l'ai même en vidéo, je mentionnais que j'étais un garçon, très clairement. Dans mon temps, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais dans mon temps, ouais. C'était pas connu l'identité de genre. J'ai quand même 33 ans, on n'en parlait pas, même quand j'ai passé par le secondaire, on n'en parlait pas encore dans les classes. Donc, moi, ça a été beaucoup plus tard que j'ai pu faire les démarches, ce qui a amené le fait que j'ai eu à faire des changements au niveau d'opération, comme faire enlever la poitrine, dont la mastectomie. J'ai dû la faire parce que ma poitrine s'était développée durant mon adolescence. Si la société avait été à ce moment-là ouverte comme elle l'est aujourd'hui, en ce moment, puisque le projet de loi veut pas va faire reculer les choses un peu, mais si elle avait été ouverte comme aujourd'hui, mais j'aurais pu avoir des bloqueurs pour un peu mettre pause sur mon adolescence, sur ma puberté, et ainsi me permettre de savoir est-ce que c'est vraiment mon identité de genre qui correspond pas à mon physique à la naissance, donc à mon aspect biologique. Mais la société amène, c'est sûr, des contraintes au niveau du binaire. Tu sais, moi, je suis un homme trans binaire, donc je ne me considère pas non-binaire. Donc moi, je me considère homme. Fait que pour moi, un projet de loi de la sorte, ça, c'est sûr, ça vient me heurter parce que c'est comme de me dire que parce que pour l'instant, je ne vais pas vers des chirurgies génitales qui sont extrêmes. On me dit que je suis pas valide dans la société en tant qu'homme. Puis pourtant, vous me croiseriez aujourd'hui, j'ai l'air d'un homme. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est apeurant, c'est que ça peut faire reculer les choses. Et moi, j'ai pas envie d'avoir sur mon permis de conduire, exemple, sexe féminin et identité de genre masculine. moi, je me considère homme. J'ai pas envie d'avoir ce terme-là de femme. Et c'est ça, dans D'accord. la société, c'est sûr qu'on a une société binaire, là.
D'accord. Donc, OK, alors donc, je veux juste...
Les filles en rose, les gars en bleu.
Oui, mais ça, c'est un peu un cliché, parce que, bon, il y a plein de gens qui utilisent toutes sortes de couleurs, puis bon, je pense que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a un enfant qui va être traumatisé parce qu'on l'a habillé en rose quand il était petit, puis je...
Non, c'est ça. Moi, si mon enfant naît, puis bon, justement, si c'est un enfant qui est intersexe, ben, tu sais, j'ai pas envie de choisir pour mon enfant si je le fais opérer plus vers fille ou vers garçon, tu sais. J'ai envie que de savoir... C'est mon enfant se sent comment avant de prendre cette décision-là pour lui.
Oui. Donc, parce que c'est important, vous le mentionnez dans votre lettre, vous allez bientôt être père. Donc, c'est votre conjointe qui va accoucher bientôt, c'est ce que je comprends. Je ne veux pas Exactement. M'immiscer dans votre vie privée, oui. mais juste pour... D'accord. Ben j'apprécie beaucoup hein, cette discussion. Je la trouve très intéressante puis très respectueuse. Donc j'aime beaucoup ça. Je veux juste revenir sur cette notion-là. Donc ce que prévoit le projet de loi, c'est que si on veut changer la mention de sexe à l'état civil, donc ce qui va apparaître, par exemple, sur notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, si on veut faire un changement, on pourra le faire seulement après avoir eu une chirurgie. Donc, si vous avez simplement pris, comme dans votre cas, vous avez une chirurgie pour enlever les seins, vous avez pris des hormones, mais vous n'avez pas eu de chirurgie génitale, donc vous ne pourriez pas faire changer votre permis Exactement. De conduire pour que ce soit le sexe soit indiqué comme masculin, mais votre identité de genre pourrait être identifiée comme masculin. Donc, je veux que ce soit oui, clair pour les gens qui nous écoutent. Bon, il y a beaucoup de gens, pas vous, mais il y a beaucoup de gens que je lis depuis le dépôt du projet de loi, qui disent que ce projet de loi est transphobe. Transphobe, ça veut dire une haine des personnes transgenres. Expliquez-moi, j'essaie de comprendre. On peut dire que on trouve qu'elle est discriminatoire, on peut dire qu'elle ne répond pas aux besoins des personnes transgenres, mais vous trouvez pas que qualifier ce projet de loi de transphobe, c'est exagéré, Monsieur Bédard?
Je dirais pas que c'est exagéré, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un combat qu'on est en train de vivre depuis des années, et que là, on revient poser des questions qu'on a déjà posées en 2013 et 2016 quand on a changé cette loi-là. Et là, c'est comme de dire qu'on n'a pas ce droit-là de changer notre sexe mentionné dans les papiers. Donc, c'est un peu barbare de nous demander de faire des opérations. Il y a ce terme-là qui est quand même gros là, que j'utilise dans mon texte. Je dirais que transphobe n'est pas si lourd considérant la situation. C'est sûr que je vais parler de plus de mon côté au niveau homme-trans, mais au niveau d'un homme trans, tu sais, oui, on a la mastectomie, mais après ça, il y a l'hystérectomie pour faire retirer l'utérus. Et selon l'opération génitale choisie, si on en veut une, parce que c'est pas nécessairement obligatoire en ce moment, ben à ce moment-là, c'est de 2 à 5, 6 opérations, même si ça va pas bien, peut-être plus. Et on parle de sur 3 ans et plus. Donc, pour une personne trans, d'être obligée de garder le sexe assigné à la naissance sur ses documents parce que, bon, le changement, même si la personne veut les opérations, dure, quasiment 5 ans, bien, à un moment donné, la testostérone a fait son chemin. Hein, fait que c'est constamment de devoir justement vivre cette discrimination-là et en plus de nous mettre à risque, parce que la personne à qui je donne mes pièces d'identité, je ne sais pas cette personne-là si elle est ouverte au sujet de l'identité de genre, et ça peut me mettre en danger. Et ça, je crois que c'est...
En quoi? Donnez-moi un exemple, Monsieur Bédard, où si vous donnez votre permis de conduire au policier, vous avez peur de quoi? Que le policier vous tabasse parce qu'il n'aime pas les personnes transgenres? J'essaie de comprendre un exemple concret.
Oui. Dans tout ce qu'on voit là, qui se passe dans le monde, là, que ce soit pas seulement au Canada, là, c'est sûr que...
Non, mais parlez-moi au Québec.
On parle de la police, exemple. Là, si je me fais arrêter, ça se peut que je vais de la discrimination. Peut-être pas physique, mais ça peut être aussi de la discrimination psychologique. Donc, ça se peut que j'ai moins de privilèges, on va dire, que le reste de la société cisgenre, qui est, bon, le sexe qui correspond au genre assigné à la naissance. Et je vais le dire, là, mais blanc, au niveau de la diversité, on le sait qu'il y en a qui ont plus de privilèges dans la société. Et le fait de mettre ça sur mes cartes, ben moi, ça vient justement brimer ce privilège-là en ce moment j'ai d'être un homme visuellement devant la société.
Dans votre texte, vous dites justement, quand vous parlez des opérations au point de vue des organes génitaux, vous dites de la mutilation et que c'est barbare. Ben moi, j'en connais des gens qui ont subi ces chirurgies-là, qui ont pas subi, mais qui ont eu ces opérations-là. Je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça beaucoup, lire votre texte, puis voir associer ça à des mutilations et quelque chose de barbare. Je comprends pas pourquoi vous avez utilisé ces termes-là.
Mais justement, pour la partie de la communauté qui ne veut pas subir ces opérations-là. C'est pas des opérations qui sont douces.
On va se dire. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de porter un jugement, justement, sur les gens qui, de leur plein gré, ont choisi cette option-là je pense, mettons, à Michel Blanc, là, je suis pas sûre qu'elle trouve ça drôle de lire votre texte puis de voir que vous associez ça à quelque chose de barbare puis des mutilations.
Mais en fait, c'est pas tant l'opération qui est barbare, c'est le fait de se faire obliger de le faire qui est barbare.
Ben c'est pas c'est une obligation de le faire.
Pour moi, ben si moi je veux au sein de la loi, c'est ça, avoir des cartes d'identité qui me représentent moi, ben en ce moment je me sens obligé. Puis je vais être vraiment honnête avec vous, moi j'ai même pas encore pris ma décision et depuis que le projet de loi a sorti, je me sens obligé. Je me sens poussé vers ça. Puis
d'accord.
Ça, c'est un sentiment qui est pas agréable.
Est-ce que vous pouvez comprendre, Monsieur Bédard, puis encore une fois, j'adore votre discussion, puis j'apprécie le fait qu'elle soit vraiment respectueuse, cette discussion-là. Est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, que il y a des gens qui sont pas à l'aise, par exemple, dans les prisons, dans les endroits pour les femmes victimes de violences, qu'on veut s'assurer que il y a pas quelqu'un qui a encore les organes génitaux mâles, par exemple, et qui se retrouve en prison avec des femmes ou qui se retrouvent dans un centre pour les femmes victimes de violences conjugales avec des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine préoccupation, disons ça comme ça? Est-ce que vous pouvez la comprendre, cette préoccupation-là?
Oui, je comprends très bien ça. Et si justement, avec l'Alliance Arc-en-Ciel, en ce moment, on a un projet au niveau des foyers d'hébergement, que ce soit thérapie ou autre. On comprend cette réalité-là, mais en même temps, il faut comprendre aussi les changements hormonaux. Tu sais, c'est comme de mettre tout le monde dans le même panier en disant, ben c'est sûr qu'une personne qui va garder ses organes génitaux masculins va vouloir les utiliser pour avoir des actes qui
non, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est parce qu'il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples, Monsieur Bédard, de gens qui, par exemple, quelqu'un qui était un agresseur sexuel et qui avait conservé ses organes génitaux mâles, puis on l'envoyait dans une prison pour femmes. Donc il y a cette inquiétude-là. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est le genre de phrase qu'un intervieweur déteste dire, mais c'est tout le temps qu'on a. Écoutez, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'on pourrait en avoir de long à se dire. Donc on se donne rendez-vous aussi pour une autre discussion. Je rappelle que votre lettre, donc, est publiée dans la section « Faites la différence », Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous appelez Alexandre Bédard. Bientôt, papa. Félicitations. Conseiller aux enjeux trans à Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Merci beaucoup de cette discussion.
Merci à vous.
Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Hier, je l'ai appelé Paquette. Paquetteville. Ben non, c'est Jean-François Paquet. Bon, voilà. À la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Ben moi, je m'appelle Sophie Durocher. Et je vous retrouve demain avec le plus grand plaisir du monde.
Cube Radio.